Joseph Malègue, Augustin ou le Maître est là. Chapitre 6, Canticum Canticorum, première partie, le retour. Augustin Méridier, professeur à la faculté des lettres, Lyon. L'homme d'équipe lut ce nom et ce titre sur une valise qu'il venait de décharger des bagages et qu'il livrait. Le propriétaire était ce jeune homme de 30 à 35 ans, arrêté sous l'horloge extérieure, regardant le paysage. Un gros garçon niais et rose, en bras de chemise, chargeait des malles sur un omnibus d'hôtel. Augustin constata que ni sa mère ni sa sœur n'étaient venus l'attendre. C'était un torride début d'été. Il aimait cette température à cause de ses rhumes incessants. Mais il craignait la fatigue pour sa mère, et le bébé de Christine avait dû retenir sa sœur à la maison. Dans l'appartement frais et vide, l'appartement d'autrefois, les deux femmes restaient seules, désormais, sa sœur dans un quasi-veuvage, pire qu'un veuvage, seule parmi les restes de tous les événements que plus de 10 ans de durée, dont 5 ans de guerre, avaient amoncelés sur toutes les vies et sur les revies. Augustin demanda « Pourriez-vous prendre cette valise avec vous et la déposer en passant chez Madame Méridier, rue de l'Abbatiale ?» Un monsieur rasé, d'une gravité commerciale, vêtu d'un cache-poussière beige, s'introduisit dans la boîte roulante. Le garçon regarda la Légion d'honneur d'Augustin et sa jeunesse, puis resta indécis. Son esprit se composait d'un certain nombre d'impulsions et d'images que toute nouvelle venue désorganisait. Par exemple, on allait de la gare à l'hôtel ou réciproquement à certaines heures, porteur de mal d'une variabilité quotidienne, mais attendue. On remontait la rue de l'Abbatiale sans s'y arrêter. La sonorité des roues changeait. L'air plus froid tombé de la haute abbatiale rafraîchissait les joues jusqu'à l'horloge quadrangulaire. Exactement. Après quoi, le soleil rebrûlait, les roues retrouvaient le son mat primitif et 4 caisses d'orangers composaient sur un trottoir d'hôtel modeste un boqueteau qui était le signal visuel de l'arrêt. Des couleurs plus vives, écarlates ou jaunes crues, pouvaient s'y joindre, rayonner du chapeau des dames qui attendaient sous cet ombrage. 40 sous passèrent de la main d'Augustin dans celle du cocher, geste créateur de pacte solennel à forme indécrite. Immédiatement, l'action de déposer une valise chez Madame Méridier devint sœur des actions quotidiennes, participa des travaux et des jours. Même quand la dimension variable des malles ou les taches d'écarlate et de jaune dans le carré des orangers, elle présenta ses qualités d'inattendue et toutefois de parfaitement ajustée aux circonstances où les moralistes voient l'essence de l'esprit. « Je vais la déposer en passant, si monsieur veut, » dit le cocher. Et ce « si monsieur veut » était prétention et non servilité. Il signifiait l'habitude que croyait avoir le cocher des formes employées dans de plus grands hôtels où des compagnies de voyageurs riches s'abattent. Le temps de faire constater leurs races différentes, pondre un pourboire dans des paumes et reprendre vol. Le cocher refit les gestes du départ. Le monsieur beige se réjouit en sa boîte roulante et la petite place retomba dans la torpeur de l'été. Les bâtiments de la gare ne cherchaient point à paraître soignés, ni n'esquissaient d'architecture. Ils étaient plats et innocents. Il tendait la main aux premières maisons du quartier neuf que les chemins de fer font naître à la lisière des très petites préfectures, aux hôtels de la gare, du roulage, des voyageurs, au charbon et transport, au ciment armé d'un garage et à quelques autres bâtisses plus petites, juste sorties de terre et pas encore adultes. Un boulevard de la gare, rigide et rectiligne, les portait tout à la fois comme au bout d'un manche et les soumettait à l'agrément du chemin de fer. Calé sous ses deux faces entre ce boulevard et le bâtiment du P.O., La cour de la gare s'ouvrait sur les côtés aux routes qui arrivaient des étendues rurales et y retournaient après un stage dans l'agglomération des hommes. Elle venait de traverser un fourmillement de jardins, sentiers, fossés d'eau et clôtures soigneusement semées de hangars et de petits ateliers, pour qu'on ne les confonde pas avec les véritables champs. Elle ne gardait aucun secret pour Augustin, les lui ayant tous confiés un à un au cours des promenades avec son père, ayant tout dit et tout montré. Il connaissait quel mur fatigué de veiller autour de trop minuscules héritages avait croulé de pur ennui, et rien n'existait plus des dispositions anciennes qu'un buissonnement de ciguës, de pariétaires, de ronces et de pierrailles. Mais il savait quels autres, érigeant des crépis tout blancs, renfrognés de cul-de-bouteille, coupants et incorruptibles, montaient d'intègres gardes autour de tonnelles dont on ne voyait que le faîte, symbole de cœur très fermé. Le sac à main d'Augustin posé à terre, le long de son pied gauche, attendait que prît fin la rêverie de son maître. Mais elle partit sur d'autres routes, joua au hasard parmi les repères bousculés, embrouillant les transitions et les fils que le réel avait soigneusement disposés d'avance pour la commodité des recherches. Enfin, le bras s'inclina sur le sac. Ils traversèrent, l'un portant l'autre, toute la longueur de la place, sous un ciel d'un blanc de fournaise concentré, à 70 degrés de hauteur, en une région sans contour définie, incandescente et infixable. Autour de ses pieds, des ombres s'ouvraient et se fermaient comme des ciseaux noirs. Le long de l'immense abbatiale, la rue fuyait, fjord de fraîcheur entre deux à pic. La falaise de gauche était le granit roux des murs romans. Des croisillons découpés entre les contreforts éclairaient près de terre l'air noir des cryptes. En haut, les vieilles pierres sacrées prenaient un rose sans âge. L'on aimait croire qu'elles n'avaient jamais été regrattées, restaurées, remplacées par d'autres plus neuves, ni même recellées. Le temps, qui ne savait couler commodément qu'au ras du sol, par le canal des rues, là où il trouvait des maisons à mordre, s'était arrêté pour ces hautes pierres, les laissant intactes, dans leur amorphe azur depuis le jour distant de 8 siècles où elles avaient quitté leurs échafaudages médiévaux. La falaise de droite était le mur moderne qui bordait l'enclos du Sacré-Cœur. Offensé des chiens et des hommes, décrépit après 10 ans, pelé par place, fait de matériaux sans race, il opposait une absence de réponse humble et têtue à l'interrogatoire que le gros œuvre d'en face adressait à cette pouille. Mais par-dessus sa crête de jeune mur sénile, le doux capitonnage des verdures, élastique, continu, regonflait à chaque printemps. Des marronniers, des lilas, qui devaient, vu d'en bas, s'arrondir en berceau concave, présentaient par-dessus la muraille un moutonnement d'ouate verte, pareil à l'envers des nuages du côté qui regarde le zénith, et que les peintres connaissent bien, puisqu'il lui superpose des déesses. Un paysage de grottes, de flocons, de volutes, de duvets, toutes sortes de choses molles et rondes, qui d'habitude ne se montraient qu'en gris Trianon ou blanc doré, teintes de vert cette fois, cachées dans ces creux d'inaccessibles nids. À cette fête où les oiseaux s'égosillaient pour ce profond bonheur, de quelques semaines, la grande muraille d'en face assistait sans comprendre, froide comme pierre, perdue dans son passé. Telle se trouvait en général la fraîcheur de l'abbatiale au cœur de l'été. Mais à l'instant où Augustin y passait, à cette date précise de cet été particulier, des chants de vêpres se firent jour comme ils purent à travers les vitraux et les porches. Ils sortirent dans un plein air mal fait pour eux, perdant au cours de la traversée leur riche volume vibrant, la fermeté de leur corps et tous les caractères secondaires qui les faisaient exister comme son. Seul restait affaibli et ténu leur essence musicale mystérieuse. Augustin découvrit qu'il n'avait pas pensé à l'heure des vêpres et que sa mère devait sans doute s'y trouver. Il eut l'idée d'entrer pour attendre, préféra rester en plein jour, choisit d'entrer, entra. S'il y avait salut, ce serait long. Petite fille, autrefois, avant que fût passé tout ce passé, des jeunes filles chantaient au même harmonium les mêmes chants. Les chanteuses d'alors étaient mères, étaient veuves. Agiles, les chants avaient sauté d'une paire à l'autre de ces belles lèvres interchangeables, au retour des mêmes encoches sur la circonférence du temps. Dans ces rares apparitions d'après-guerre, c'était la première fois qu'il tombait en plein dimanche, droit dans des vêpres molles qui se laissaient percer et traverser sans réagir que par des chants. Il déposa tout sur la même chaise, son sac, son chapeau et les alluvions de tant de saisons qu'il fallait réfléchir pour trouver leur nombre et planter sur elles le chiffre juste. Il revit la fondation tiers, les premiers travaux de sa thèse, le séjour auprès d'un philosophe illustre et vieillissant, et de ses jardins au bois de Boulogne, une correspondance par les oiseaux. Il revit l'année d'Allemagne, les temps d'Heidelberg, les sons coulaient sur son âme juste à la surface de contact entre ce présent et ce passé, entre ce passé et d'autres infiniment plus reculés et plus subtils. Solution qui s'évapore en déposant ses poudres, ses chants abandonnaient leur grand lyrisme sémitique, leur voisinage de cèdre et d'encens rituels, cette saveur de Palestine et les alentours des années où il l'avait pour la première fois essayé sur sa langue. Il ajoutait sa vieillesse personnelle à celle de ses chants, comme on jetterait un caillou sur les pyramides pour les hausser. Et puis, c'était la guerre, si courte pour lui. Toute sa compagnie prise d'un coup de filet, quelque part près de Charleroi, le départ pour l'Allemagne blessé. Sa grande chance, le docteur scandinave, visiteur neutre de prisonniers, connu par lui à Paris, puis à Heidelberg. Bénéfice, 3 ans de Lausanne. Les villas d'Ouchy, celles de Montrepos, cachées dans leur parc, plus vertes que leur verdure, l'université sur la haute colline. Et il y professa. De vieilles rues protestantes, merveilleusement propres, et les toits du XVIe siècle, qu'enjambent les ponts contemporains. La cathédrale expurgée, raclée de catholicisme, l'outre-mer foncé du Léman sous tous les gris possibles aux brumes, le bleu romantique des Alpes, les pics aiguilles, Horner, Nadeln, Pizzi et Gugli, malgré la différence des langues, crêtées du même blanc de neige, violent tableau qu'aucun chant d'église n'entamait plus. Tout au sud, sur d'autres pentes, Évian, Thonon, Ivoire, la rive interdite de la patrie. 3 choses arrivaient de France, des journaux censurés, des correspondances caviardées, et le vent d'ouest libre mais vide. Ces malheureuses lettres arrêtées aux frontières, rudoyées, avilies de toute manière, découpées au ciseau comme dentelles d'enfants par l'arbitraire des auxiliaires de deuxième classe, dans la poussière des contrôles postaux, apportèrent la mort de la frêle Jacqueline, le départ aux armées du jeune Pierre, qui voulait vendre et n'aimait pas le latin, et puis sa mort, le dernier mois avant l'armistice. Christine, sévrienne, puis universitaire, mariée à un blessé de guerre mal remis qui paraissait charmant. Un certain son de glas dans les lettres maternelles. Dans celle de Christine, une pauvre tendresse sans emploi, depuis trop longtemps en attente. Oui, il y avait bien un salut, on ne l'éviterait pas. Il n'apercevait pas sa mère. Ses regards, cependant, ne se trompaient point de chapelle, ni ne s'égaraient entre les piliers. Son retour en France, à l'armistice, ses belles thèses de doctorat passées, un autre livre prêt pour l'impression, ses fiches rassemblées pour un troisième, et pas mal de billets de banque suisses en train de hausser, il versa 10 sous à une jeune quêteuse modeste et inconnue, et 2 seulement à la loueuse de chaises qui ignorait la valeur des sous nouveaux. Une fois rentré en France et sa chaire de faculté obtenue, c'était le départ pour Harvard, parmi les professeurs d'échange que la République envoyait outre-Atlantique en propagandiste. Et de nouveau, l'élargissement des horizons au prix d'un continuel éloignement des siens. Le blessé de guerre de Christine, maintenant très guéri, très gai, très léger, toujours charmant, toujours sur la voie d'affaires splendide, sa fuite sur un pas de danse avec une demoiselle aussi gaie, aussi légère, leur double départ vers d'autres bonheurs, toute vie n'étant qu'un jeu, il lui laissait en gage, comme à pigeon vol, un petit garçon de 3 semaines. Ces nouvelles tenaient dans une triste lettre de France non contrôlée cette fois. Christine, rentrée dans la vieille maison, commençait entre son enfant et ses occupations professionnelles au lycée de jeune fille une vie déveloutée de joie, mais non pas de sérénité, ni d'une sorte de monotone bonheur. Enfin, Suzanne, l'effacée, la secrète, les voyant tous trois rassemblés, sûrs à peu près du lendemain, entrant dans l'ordre religieux que toute son adolescence avait désiré, passant à sa jeunesse la consigne de désirer encore immédiatement lancer dans les parties neuves de la terre, séparée du Cantal par des mois de voyage, un large écartement des méridiens, une ouverture plus large encore et vaguement sanglante, peut-être dans son propre cœur, sûrement dans un autre, qu'elle laissait pour ne plus revoir. Augustin vint au devant de sa mère comme elle se hâtait vers le bénitier. Elle parla la première, après les baisers. Ces mots, d'un provincialisme naïf, son fils ne les entendait jamais que dans ce coin de France. Il pouvait croire qu'ils ne servaient qu'entre eux. Ils attendaient, imperceptiblement, plus usés à chacun de ses successifs retours. Ils étaient les seuls où elle fut à l'aise, les seuls à pouvoir habiller son âme des vêtements unis qu'elle aimait. Elle en revêtait tous ses sentiments, des plus simples aux plus profonds, rebelles aux paroles comme un tissu de laine, et selon ses besoins ou les températures, fichu d'épaule ou coiffure ou couverture de lit, mais jamais rien exactement. Elle parlait de la chambre qu'elle avait préparée, des côtelettes premières achetées pour le dîner qu'elle appelait souper, ainsi qu'au vieux temps, demandait de quelle manière il préférait ses œufs. Le sentiment qui unit les mères aux enfants a changé depuis les premières années, voulait qu'on fît semblant de croire que les conditions matérielles du bonheur n'avaient pas changé davantage et qu'elles consistaient encore après une semaine entière de sagesse à manger de la confiture de groseille au lieu de fromage avec le pain de son goûter. Sa capote de tulle, qu'elle ne modifiait plus depuis longtemps, indiquait un deuil continu, fait tantôt de deuil véritable et tantôt de leurs intervalles. À un certain âge, les couleurs n'ont plus grand-chose à vous faire croire. On n'est plus dupe de leur langage. On sait que tous les coloris de ce monde ne dispensent d'aucun des renoncements nécessaires à préparer l'autre, travail austère. Le noir est la couleur de ce vêtement de travail. Sous cette capote, Augustin scrutait le vieux visage. Son cœur se serrait devant chacun de ces regards à la fois limpides et clignotants, tant ils disaient leur volonté de rester dans la joie comme on rompt le jeûne un jour de fête, et aussi le désir de ne rien voir des années écoulées entre le passé des tout-petits et la minute présente, et même la prétention de s'assurer la complicité de l'avenir, le temps n'étant sans doute qu'indifférent bain neutre qui ne peut changer les êtres chéris. Une pensée lui venait, qu'il repoussait avec violence. Il lui interdisait de se montrer, la condamnait à l'inexistence, la rejetait dans sa nuit. Docile, elle rentrait aux régions aveugles. Mais une vapeur noire montait de son invisibilité, maculant toutes les autres, épanouie dans la lumière. C'était l'appréhension des changements qu'avaient commencé la souffrance et l'âge sur le vieux visage aimé. L'horrible idée lui montrait que les jours de sa mère diminuaient en nombre, approchaient de la fin, que les chers yeux voilés se fermeraient sous une fatigue suprême et que l'impersonnalité des choses serait plus forte que son cœur. L'ombre des maisons formait sous leurs pas de longs rectangles réguliers, gris de sable, autant de tapis sans épaisseur étendus au pied des façades nord. La maison d'en face dormait. Assommée sous les coups de soleil, tout volet clos, tout store descendu. Des triangles de cette même couleur sable pendaient sous les balcons et les saillies en tabliers mal coupés. Ils marchaient tous deux lentement dans les plates-bandes d'ombre. Une pâtisserie en pitch peint aux courbes modern style rajeunissait les pierres d'une vieille maison renaissance. Augustin ne reconnut pas l'emplacement du perrier. Le nouveau négociant, négligemment appuyé de l'épaule entre ses portes ouvertes, enroulait sur l'autre l'une de ses grosses jambes. Rasé de près, il s'honorait d'une chemise propre, phénomène hebdomadaire qui dépendait, sans qu'il s'en doutât, de la circonvection de la lune autour de la terre. Mais il n'avait ni faux col ni veston. Pleinement conscient de ses lacunes, il les tolérait avec une démocratique aisance, témoignant par là que son esprit libéré n'acceptait des accessoires dits « dominicaux » que la chemise et le menton net, rejetant les autres. Hiérarchie de valeurs dont Augustin s'attarda à rechercher la plus vraisemblable origine dans la philosophie du XVIIIe siècle. Lorsque passa Madame Méridier, le pâtissier porta sa lourde main à la hauteur nécessaire pour déplacer sa casquette, s'il en avait eu une, tout le reste du corps restant immobile. Ce geste trahissait une certaine nuance, une certaine intention de politesse. Il exprimait le souvenir que gardait le pâtissier d'un achat de tartelettes ou d'éclairs au café encore tout proche. Il était une prestation que les usages faisaient due en outre de la fourniture. Mais on ne savait quoi de trop négligent dans le déplacement de cet avant-bras et comme conséquence de trop léger dans le salut, témoignait d'un respect de volume moindre et de poids insuffisant. C'était le signe dont le pâtissier stigmatisait les achats uniques qu'on ne renouvellerait pas avant de longs mois. Ils montèrent les trois marches de pierre d'un perron arrondi. L'anneau de fer forgé, piqueté de rouille, représentait un serpent se mordant la queue. Les vieilles habitudes prirent la main d'Augustin et la placèrent au vieux endroit. L'effort tangentiel du poignet, le voluté rugueux de cette rouille, ressuscitèrent un grand morceau de passé et il devina l'odeur qui allait suivre. Elle était là, tapie derrière la grosse porte, jointe pour toujours au bruit de ses pas sur les dalles. Elle parut chargée de tant d'adolescence, de tant de souvenirs de son père, qu'il dut fermer les yeux pour empêcher le jour actuel de les traverser. Tout le vernis de sa vie récente, il le laissait sur le seuil pour le reprendre à son départ. À chacun de ses rares et courts séjours, c'était ainsi. Jusqu'à 1 mètre du sol environ, un soubassement de peinture ocre régnait au mur du vestibule et tournait avec l'escalier. Sur le reste de la muraille, depuis la limite de l'ocre jusqu'aux marches supérieures dont on voyait monter l'envers, la peinture passait au jaune café au lait. Foncé ou clair, la même fumée familière l'embuait, aussi peu déplaçable qu'une concession à perpétuité. Au fond du vestibule, en face de la première marche, s'ouvrait la grande porte de cuisine des maisons bourgeoises d'autrefois. Les fumées dont l'escalier portait la marque venaient de là. Déchue et louée, comme tout le reste de la maison, cette cuisine servait de dépôt à un marchand de grains et de pommes de terre. Lui-même logeait au premier. On voyait quelquefois passer dans l'escalier sa silhouette de vieux garçon voûté, robuste, un peu ours, et qui ne saluait jamais. Ses dépôts, ses hangars pour camions, prenaient jour sur une ruelle paysanne conduisant vers des jardins. Leur fête s'apercevait de l'ancienne chambre d'Augustin sur l'autre côté de la courette. La cuisine n'était qu'un accessoire pour lui. Il avait pris le premier étage par surcroît lors de l'extension de son commerce au début de la guerre. Il occupait ainsi 2 ou 3 pièces d'un appartement désert. Cette cuisine, ne s'ouvrait qu'aux jours de marché ou de foire. Une impasse latérale la bordait, toujours humide, et l'eau qui y coulait semblait brune. Le marchand de grains avait conduit jusqu'au sol et transformé en porte une des fenêtres pour rouler de plein pied avec la rue les diables de pommes de terre qui ne pouvaient franchir les marches du perron. Il entrait chez lui par là, montait à son premier par un escalier intérieur et disparaissait de l'horizon domestique. L'autre fenêtre restait ce qu'elle avait toujours été, son croisillon de barreaux tord, ses vitres verdâtres aux araignées permanentes, la laissait nettoyage à part, très semblable à son aspect ancien, lorsque la maison menait sa vie bourgeoise, opulente et sûre, au temps royaliste et censitaire. On voyait encore sur la pierre de l'imposte demi-ronde des initiales rongées de rougeâtre lichen et la date 1819. Par l'entrebâillement de sa porte, les regards d'Augustin avaient jadis jeté maints coups de filet dans le gris-souris de cette cuisine et les prises grossissaient chaque fois. Mais elles n'étaient que de pommes de terre, de grains et graines uniques habitants ou d'aujourd'hui. Bien plus riches et plus réelles, les belles prises imaginaires ramenaient des morceaux d'un savoureux passé inconnu. Des choses pour compte de nourrice naissaient à une violente vie. L'édifice grinçant des ferronneries grasses sous la hotte de la cheminée, les landiers, batteries, broches et tournebroches, l'ordonnance des bassines par taille décroissante comme des demoiselles de pensionnat, le bio de bois brut et, dans la fumée des sarments, la cataracte des natures mortes. Plus que tout, le reflet des cuivres, bougeant quand on marchait, un alignement de miroirs fauves et circulaires par lesquels regardaient les faces déformées de nabots cuisiniers tombés des légendes allemandes dans cette cuisine Louis XVIII. Toute l'adolescence d'Augustin s'était bercée de ses rêves. Madame Méridier montait lentement, s'appuyant à la rampe et soufflant à cause de son cœur. « Vois-tu, mon chéri, » dit-elle une fois le palier atteint, « je respire fort parce que je suis vieille, mais je vais très bien. Je voudrais que tu ailles aussi bien que moi. » Puis elle vit la valise. « Ah, ta valise, qui te l'a portée ? Tu as bien fait de ne pas te fatiguer sous ce grand soleil. Combien lui as-tu donné, n'est-ce pas trop ?» Augustin ne s'étonnait pas. Cela n'était que souci austère, montrant l'inquiétude de son argent à lui et, par transparence, l'indifférence qu'elle avait eue toute sa vie pour sa propre peine. Son souffle s'était apaisé, mais elle restait pâlie, ce qui faisait plus émouvante les rides autour des vieux yeux purs. La porte de l'appartement s'ouvrit et Christine parut, portant un bébé d'un peu plus d'un an. « Je te demande pardon de n'être pas venue t'attendre, mais ce petit monsieur s'y est opposé. » Le bébé, ensaucissonné de molleton, semblait un gros ver blanc cylindrique muni d'une paire de pattes qui l'agitait. Augustin baisa avec crainte la petite tempe mystérieuse et reçut l'un dans l'autre ce contact velouté et cette odeur de bébé. « Oh, monsieur, ne louchez pas !» dit la jeune mère, comme les deux lumières violettes se rapprochaient du petit nez. Augustin interprétait, excusait. « Il ne louche pas. Il explore le monde dans les limites où il peut. Il n'accepte pas purement et simplement les couleurs qui lui sont soumises. « Alors vous serez intelligent ?» dites, monsieur. Le bébé tournait les yeux vers le haut de la fenêtre où une figure éclatante et bleuâtre l'intéressait. « Non, non, c'est trop vif pour vous. Regardez plutôt par terre. » Devant l'embrasure de la croisée, une coulée de lumière solaire, d'un or franc et naïf, oignait la pierre du corridor et dans tout l'espace entre lui et la surface bleue, des particules dansaient. Ce trapèze couleur bouton d'or lui est un être vivant. Il en est confondu d'émerveillement. Serrez les doigts de votre oncle, petit, serrez-les fort. Augustin tâchait de loger entre les faibles phalanges son gros doigt d'adulte, lorsque la petite figure se rida. La chose jaune d'or fut rejetée avec fureur et mépris. Des forces physiologiques souveraines crevèrent la mince vie de relation et le bébé éclata en cris déchirants et désespérés. « Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il a ?» s'affolait Augustin. « Oh, c'est simple, il est exactement 4h13. Eh bien, monsieur attend son goûter depuis 13 minutes. »
« Vraiment ? C'est pour ces 13 minutes ? » ?»«
Mais oui, c'est la raison de ce grand concert. » Le visage de sa sœur, tout plissé de sourire et penché sur la petite tête, hochait de gauche à droite et de droite à gauche pour montrer au bébé que sa maman, en dépit de toute considération contraire, entrait pleinement dans son gros chagrin. À chaque hochement, tremblaient des épingles dans le massif chignon noir un peu desserré. Un demi-jour vert bleu emplissait l'appartement. La dévorante lumière où baignait tout l'extérieur étincelait par minces barres d'or blanc entre les lames des persiennes closes, et la fraîcheur naissait du seul contraste entre ces fournaises et cette ombre. On entendait des gonds de placards et de heurtements de carafes. Les arbres du jardin balançaient un faible grisé visible à travers la transparence des persiennes. Tout était silence, calme geste domestique. Sur un fauteuil, au coin de la fenêtre, derrière les feuilles d'un palmier d'appartement, enfui entre des bras et des genoux, le bébé tétait avec des bruits digestifs ingénus. Christine regarda son frère par-dessus l'enfant blotti. Son teint assez terne, ses lèvres charnues, un peu grosses, avec une ombre de moustache, tout cet ensemble honnête et sans grand charme, deux yeux noirs magnifiques, brillants d'intelligence et de culture, le vivifiaient. « Il dormirait si je le laissais faire, » disait-elle du petit garçon repu et assoupi. « Mais il faut le peser. C'est mon châtiment de ne pouvoir me décider à le sevrer. » « Ah, parfaitement !» fit Augustin, qui n'avait rien compris. Le bébé criait sur son panier à peser, qui lui redressait la tête, tandis que sa maman manipulait sur l'autre plateau les poids de cuivre. « Là, là, c'est fini, c'est très bien. Vous avez pris 150 grammes. »«
Oh non, ce n'est pas si triste. N'ayez pas ces sanglots excessifs. »
Elle saisit l'un des côtés de la couchette, la vieille mère s'empara de l'autre, et Augustin regardait avec la gaucherie masculine cette collaboration de deux femmes autour d'un berceau. Bébé dormait dans l'ancienne chambre de Christine, sa chambre de jeune fille qu'elle avait reprise. Le lit de fer étroit et tendu, la cotonnade blanche d'une netteté conventuelle, trahissait l'abandon de sa sœur d'une manière si douloureusement insultante qu'Augustin en reçut la sensation directe comme un coup de bâton. Cette jeune femme de 30 ans retrouvait la chambre virginale de sa 15e année avec les mêmes détails des meubles, les mêmes cris de tiroir, les mêmes rayures du sommier, et accrochée à ces choses, les habitudes dont s'étaient accompagnés les premiers lyrismes de ses rêves. Son âme de jadis lui revenait, cruellement contemporaine de sa maturité, et démentie par elle. Mais Augustin pressentit qu'il oubliait l'enfant. Dans le petit lit d'osier où il était porté, ses plaintes qui avaient atteint d'emblée les notes extrêmes retombaient au ton résigné et impuissant, désespérant d'être exaucée. Christine, penchée sur la petite bouche criante, lui parlait d'un timbre changé, pareil à un sourd roucoulement gonflé de tendresse sous ses surfaces. Graduellement, le bébé se mit à l'unisson du murmure. Ses plaintes se firent de moins en moins hautes, ne furent plus qu'une émission traînante de la petite voix qui se souvenait d'avoir été désolée, continuait par pure inertie et prenait lentement le rythme d'avant le sommeil, inspirateur des anciens berceaux. « Il va dormir ?» dit tout bas Augustin. Mais Christine ne répondit pas. Sa voix changea une fois encore, passa au chant assourdi. Le dernier mot parlé
le premier mot chanté, ne furent pas plus discernables que ne l'est, au moment du vol, l'insertion d'une mince tranche d'espace entre le sol et l'oiseau planeur. Gute Ruhe, tu die Augen zu. Augustin reconnut les douces syllabes de la berceuse de Schubert. Les mots, les sons, le timbre, cette accumulation de sourdes voyelles veloutées, tout ce rythme de Wiegenlied présentait juste le contact subtil et cotonneux nécessaire à séparer d'une conscience de bébé les images et sensations du plein jour. Une sorte d'aile battait au-dessus de la petite forme tourmentée qui s'apaisait pour dormir. Gute Ruhe, du die Augen zu. Christine se redressa et dit à demi-voix : Il dort. Augustin comprit enfin ce que l'enfant était pour sa sœur. Rien ne restait d'autre chagrin. Nul besoin de discipline stoïque et raidie, plus de blessures, aucune plaie, la douce petite vie ayant tout cicatrisé. Cette soif de tendresse avait enfin trouvé où boire. Ils restèrent tous les trois à table après leur repas. Christine ayant desservi, la vaisselle attendait à la cuisine où la femme d'ouvrage ne la retrouvait que le lendemain. Les compotiers, la crème au gâteau de Savoie, tout ce qu'Augustin était censé n'avoir jamais cessé d'aimer, avaient réintégré les placards. Christine parla d'allumer, mais il fit signe que c'était bien inutile. Un jour de semaine, la vieille mère eut continué de tricoter, sans voir, sa paire de bas pour enfants du premier âge. Mais, comme c'était dimanche, elle garda sur ses genoux, dans une oisiveté dont elle avait gêne, ses mains qui, conservant la forme de leurs occupations, semblaient s'excuser de faire pour rien les gestes du travail. Tout était semblable et tous trois sautaient par-dessus bien des ans. Les souvenirs d'odeurs réédifiaient les anciennes chambres à fruits. Cette lame de parquet craquait comme jadis aux mêmes jointures. Augustin ne se rappelait pas avoir jamais vu le temps s'en aller si doucement, sans ride quelconque sur son miroir, ne sachant de quel côté couler, faute de pente. Telles des fillettes trop sages, les minutes s'endormaient sans jaser. Il voyait toucher à sa fin ce soir de juin, si longtemps rose et calme, alangui par l'heure d'été. Les massifs d'arbres des immédiats espaces n'osaient bouger dans l'extrême soir, prenaient des teintes noires-olives et semblaient l'envers de quelque couleur. Vu de près, limitrophe, presque maniable et familier, ils peuplaient les cantons du ciel les plus rapprochés des jardins. Derrière eux, dans les creuses profondeurs, des apparences infiniment vastes développaient avec une lenteur immense les phénomènes de la véritable nuit. Christine, assise à contre-fenêtre, n'était plus qu'une silhouette immobile et tassée, soulevée à rythme égal. « Mon tintin, » dit la vieille femme, avec l'abréviation d'autrefois, « nous allons faire la prière. »« Tu veux la dire avec nous, n'est-ce pas ?»« C'est pour remercier la Sainte Vierge de ton arrivée et lui demander d'être une mère pour mes deux enfants. » « Excellente idée !» fit Augustin du ton de plaisanterie dont il cachait ses attendrissements. Il avait déjà constaté cette forme d'esprit chez sa mère. Elle consistait à croire que tout ce qu'on sentait en lui de fermé au dogme catholique ne leur était au contraire que superficiellement, recouvrait des réalités profondes entièrement conformes, quoique discernables aux seuls yeux maternels. Et c'était pour Augustin lui-même une épreuve que d'ignorer cette conformité. Cette attitude ne s'affirmait dans aucune phrase directe, mais toute l'impliquait. Rien, d'ailleurs, en sa mère, ne prétendait arracher au secret de leur vie autonome les émotions, les doutes, les désirs, propriétés d'Augustin et de personne d'autre. Elle sentait bien qu'elle ne pouvait pas, qu'elle n'eût pas compris. Elle acceptait doucement de ne pas pouvoir et de ne pas comprendre. Dieu sait bien reconnaître la bonne volonté, disait-elle, même quand nos pauvres yeux de la terre ne l'aperçoivent pas. Ah, celui-là ! La comparaison ne s'achevait pas. ce qui était très philosophique, car avec qui comparer Dieu? Augustin se rappelait s'être demandé jadis, dans les mois qui suivirent sa crise et la mort de son père, comment il s'y prendrait pour minimiser à ses femmes la grande transformation de sa pensée. L'amertume qu'elle risquait d'en ressentir lui était intolérable. Il haïssait les intransigeances dont il avait eu quelques exemples. Elle protégeait habituellement des pensées d'une qualité fort médiocre et des cœurs bas. Or, cette croyance de sa mère rendait tout bien plus facile. D'ailleurs, pensait parfois Augustin, avec une légèreté qui l'attristait lui-même, rien n'était tout à fait aussi lourd ni aussi sérieux qu'on ne le supposait. Les traditions tenaient à peu près toutes seules dans le pays, et les habitudes dans les familles. Il ne fallait en rien bousculer l'aménité des transitions. Il se rappelait les crises d'autrefois, les déchirements, les fameuses nuits. Certainement, si ces débats se présentaient maintenant, il ne ferait pas la dépense de tant de tragiques. Le manque de sérieux renanien, phénomène général, dépassait Renan, simple forme de transition, évitant les saltus que déconseille la nature. Comme tout était plus simple. S'il ne s'agissait que de petits gestes de pratique, il leur tendait ses mains dociles et tous ses consentements. Cependant, comme aux vêpres de l'abbatiale, la monotonie de la prière aidait sa rêverie. Toute l'information textuelle d'Hamelin et de Rodier, toute la poésie métaphysique de Raffaisson, mais aussi une sorte d'âpreté et de sérénité mêlée dans les incessantes comparaisons avec les points de vue modernes. Augustin se rappelait en souriant ce compte rendu de sa thèse sur Aristote, dû à un grand universitaire, son juge de thèse. Dans la seconde édition du volume, il était justement en train de baisser la teneur de cette âpreté. Il remuait ses pensées et d'autres semblables pendant les litanies de la Sainte Vierge. Il avait pris une chaise, retourné le dossier contre lui, logé sous sa rotule l'arête du siège. L'autre jambe, oblique et raidie, servait d'arc-boutant à ce système mécanique. Des complicités au fond de ses muscles et de ses tendons lui rendaient ses gestes faciles. Elles avaient déjà disposé ses mains sur l'anneau de fer piqueté de rouille. Lui-même, d'ailleurs, n'était pas sans avoir évolué dans ses négations. Paradoxalement, ce qui le terrifiait jadis dans les grandes luttes de son âme avait perdu sa poésie noire et tout le prestige de la terreur. Ses adorations étaient bien passées pour sa vieille maîtresse, la critique biblique. Les vraisemblances hasardeuses et le laisser-aller de ses suppositions, les hardiesses arbitraires et tout l'hypothétique des ponts factices, fort légitimes, ce qu'il supprimait devant l'être a priori et par quelque hypothèse que ce fût, se montraient sans voile et dans leur faiblesse, maintenant qu'il ne menaçait plus grand-chose, toute métaphysique chrétienne étant tombée comme il l'avait prévu. De la suspicion dont il frappait maintes exégèses dites positives, aucune discipline religieuse ne profitait plus. N'avait-il pas écrit dans ses années de Lausanne et repris pour les « Proceedings » d'Harvard quelques dures pages vigoureuses sur la manière dont la critique biblique dite rationaliste dépassait le positif pur. Il y avait une distance que ces messieurs avaient tort d'oublier entre l'extrême portée de leur sondage et le roc des faits. Il n'était pas mauvais qu'un logicien de métier le leur dit, d'un ton fort détaché, sans autre but qu'une critique exacte de leur instrument de connaissance. Les images bibliques évoquées par sa mère chatoyaient dans la ciselure de leurs adjectifs « turris davidica, turris eburnea, domus aurea ». Chaque invocation tournait et retournait le bijou millénaire, tirait un éclair versicolore de la pierre précieuse et incorruptible. Il devait falloir un nombre de répétitions considérables, et la destinataire à qui l'on demandait d'intercéder dormait sans doute au fond d'un palais hiératique, visible du sommet d'un nombre rituel de collines, dont chacune formait autel pour une incantation. Un moment vint où la prière changea de teneur, ce dont Augustin fut averti par une soudaine descente de ton sur les paroles « Afin que je connaisse mes péchés, comme je voudrais les connaître à l'heure de ma mort, au jugement de Dieu. » Pendant l'habituel silence de récollection, Augustin prit à la fois conscience d'une intolérable gêne autour de sa rotule et d'un épaississement de la nuit. Il plia, redressa ce malheureux genou à plusieurs reprises et très lentement, par respect pour les orantes. Honteux d'avoir les rotules à déplacer et des tendons à remettre en ordre, quand il s'agissait de larmes amères pour pleurer nos péchés par Jésus-Christ, votre cher Fils et notre Rédempteur. Son père remuait ainsi ses rotules autrefois. Sans doute aussi entrelardait-il de rêves identiques les prières qu'il consentait à suivre. Il est vrai qu'il lui arrivait bien d'y fumer. Quand tout fut de nouveau en paix dans le domaine de ses jambes, Augustin s'abandonna au sentiment de la nuit. Depuis les profonds massifs anonymes, de petits souffles venaient jusqu'à l'intérieur de la chambre. Il n'y avait pas de lune encore. Tout était transparent et impénétrable, d'une décevante limpidité. Les souffles eux-mêmes portaient des odeurs trop diluées pour qu'on pût sur elles mettre le juste nom. Elle sentait les herbes et la terre. Des émotions pareillement indistinctes et douces l'effleuraient, à base de gratitude, de regret, de tendresse et de repos. C'est tout ce qu'on pouvait lire sur le visage voilé des génies bleus, fils du silence et de la nuit. Christine se leva. La prière était finie. Sa mère restait à genoux. Quelques minutes encore, prolongeant d'une audience privée l'entretien officiel, ce qui était chez elle une coutume. Puis ils s'embrassèrent tous les trois et se souhaitèrent le bonsoir avec des mots tout simples, pleins des plus vieilles habitudes de leur vie.